Bonsoir à tous, c'est Kia Badou en votre compagnie. On est ensemble jusqu'à 18h30 en temps universel. Vous êtes nombreux à nous écouter d'Abidjan, Kinshasa et N'Djamena. 5 personnes ont perdu la vie dans des violences xénophobes en Afrique du Sud. Le pays arc-en-ciel a été le théâtre dimanche 1er et lundi 2 septembre d'une nouvelle vague de violences et de pillages à caractère xénophobe à Johannesburg, la plus grande ville du pays, puis à Pretoria, la capitale. Des actes qui se sont soldés par des dizaines, par exactement 189 arrestations. Alors que pensez-vous de cette situation? Comment éviter ce type d'acte? Un seul numéro pour participer, le 001 202 205 26 33. Et vous avez également la possibilité de laisser votre téléphone en amont sur la page Facebook VOA Afrique. Et c'est ce qu'a fait notre premier auditeur. Il s'agit de Jacques Befunga Malo. Bonsoir. Alors peut-être nous avons un autre Jacques en ligne. Alors, nous avons un autre auditeur qui souhaite intervenir. Il s'agit d'Alain. Bonsoir.
Allô?
Bonsoir, comment allez-vous?
Oui, ça va très bien.
Vous vous situez dans quelle ville actuellement?
Je réside à Ouagadougou, au Burkina Faso.
Alors, que pensez-vous de cette actualité sud-africaine?
Je crois bien que c'est malheureusement dommage pour vraiment ce qui se passe dans au pays de la nation arc-en-ciel. Je crois que ce que l'Afrique du Sud a traversé pendant les durs moments de l'apartheid devrait pouvoir éviter la situation qui prévaut aujourd'hui en Afrique du Sud.
Alors vous êtes nombreux à avoir cité la nation arc-en-ciel ayant vécu l'apartheid et ne pouvant pas reproduire de telles ségrégations, actes racistes. Comment expliquer cela selon vous?
Je crois que peut-être c'est un manque peut-être de la part de l'État de n'avoir pas fait preuve d'un devoir de mémoire à l'endroit de la jeunesse actuelle aujourd'hui, parce que l'apartheid a pris fin dans un passé assez récent. Il n'est pas évident que, par exemple, la génération qui a précédé la libération de Nelson Mandela et son accession au pouvoir ait conscience vraiment de la portée de l'apartheid aujourd'hui. Donc, je crois que les autorités sud-africaines se doivent aujourd'hui de
garder ce devoir de mémoire.
D'éducation, voilà, ce devoir de mémoire en enseignant à la jeunesse actuelle ce qu'a été véritablement l'apartheid pour l'Afrique du Sud et surtout en leur décrivant de façon concrète ce que les Sud-Africains âgés de plus d'une génération ont traversé pendant l'apartheid. Je crois que ça pourrait apporter un changement fondamental dans la mentalité de la jeunesse sud-africaine aujourd'hui, qui n'a pas encore une génération d'âge.
Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre avis, Alain Bado. Sur la toile, nous avons également d'autres avis qui vont un peu dans ce sens. On a par exemple celui de Bruno Bayala. Je pense que le gouvernement sud-africain est en grande partie responsable de cette situation, dans la mesure où ces violences se sont également produites en 2015. Comme dit l'adage, vaut mieux prévenir que guérir. Il y a un autre auditeur aussi qui a tenu à s'exprimer, Joseph Banga. Ils n'ont tout simplement pas compris, nous supposons qu'ils parlent donc des Sud-Africains, qu'est-ce que la cohabitation? Et ils oublient que leurs propres compatriotes vivent aussi dans d'autres nations et qu'ils peuvent subir la même chose. Qu'en pense notre prochain auditeur? Il s'agit d'Aruna Baldé, à Dakar, au Sénégal. Bonsoir.
Oui, bonsoir madame, bonsoir à tous les états de la zone Afrique.
Alors, quel regard portez-vous sur cette actualité sud-africaine?
Bon, je pense que c'est une situation déplorable dans la mesure où aujourd'hui les Africains ne méritent pas, l'Afrique du Sud aussi, l'image de l'Afrique du Sud ne mérite pas vraiment une telle image d'un pays de Nelson Mandela. Tout le monde savait le rôle que Mandela jouait en Afrique à son temps. Aujourd'hui, c'est très regrettable vraiment de voir les jeunes Sud-Africains vandaliser ou saccager des boutiques d'autrui puisqu'ils sont des étrangers à cause du chômage. Moi, je ne pense pas que c'est une situation valable. Aujourd'hui, le mot est là. C'est la xénophobie. Aujourd'hui, j'ai vu la sortie du ministre voilà, qui disait que c'est des actes criminels alors, en refusant de démettre le mot tel qu'il est en quelque sorte. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une pire xénophobie qu'on doit combattre. Et le gouvernement, les autorités sont les en quelque sorte responsables pour combattre ce phénomène. Parce que ce n'est pas une première. Et ça, je pense que cela ne va pas arrêter si on ne prend pas des mesures aujourd'hui punitives à l'encontre vraiment de cette xénophobie en quelque sorte.
Alors les personnes qui ont été appréhendées, selon vous, vous aimeriez qu'elles aient quel type de sanctions pour que cela puisse servir ou pour réparer justice?
Je pense que la justice, elle est là pour cela, pour vraiment juger les gens qui ont commis des crimes. Et si vraiment la justice, elle est consultée, elle doit vraiment travailler, faire son travail, c'est-à-dire les juger et les condamner sévèrement pour que demain, les mêmes réalités ne se produisent pas, les mêmes effets ne se produisent pas. Parce que quoi qu'on dise, les étrangers contribuent au développement de la privilégie. Ils payent les taxes en quelque sorte.
Merci beaucoup Aruna Baldé d'avoir partagé avec nous votre point de vue. On va aller du coup au Cameroun avec notre prochain auditeur. Il s'agit de Victor Tchakika Kamé. Bonsoir.
Bonsoir, la VOA, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, quelle est votre opinion concernant le sujet du jour?
Justement, l'information qui circule en fait des temps sur l'Afrique du Sud en ce qui concerne la xénophobie. Ça m'a vraiment fasciné c'est une information qui émerve et qui fâche des fois les Africains comme moi. Parce que comment peut-on imaginer l'Afrique du Sud, qui n'est pas un pays à part entière, l'Afrique du Sud est un pays qui se trouve sur le continent africain. Et du coup, les étrangers qui vivent là-bas, les Noirs qui sont là-bas, sont des Noirs africains. Et là, comment peut-on imaginer encore que ces mêmes Africains qui sont des frères ont de la haine contre leurs propres frères. On ne peut pas concevoir cela, cette xénophobie ici en Afrique, d'autant plus que on a l'habitude d'entendre la xénophobie en Europe. Si c'était en Europe, on aurait dû être d'accord parce que là-bas, du coup, on se rend compte que tout le monde, les blancs, ce sont des racistes, des fois, ils traînent les noirs de la sorte. Et quand on essaie de revenir en Afrique, on trouve que non, c'est vraiment inadmissible, inacceptable, d'autant plus que nous sommes en Afrique. Et là, je pose du doigt la responsabilité du gouvernement sud-africain. Pourquoi? Parce que un pays qui se dit indépendant, un pays qui a la justice, ne peut même pas cautionner de tels désordres qui peuvent se passer. Et du coup, les Sud-Africains trahissent la mémoire du Nelson Mandela. Parce qu'on connaît au moins l'histoire de l'Afrique du Sud.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir donné votre point de vue. Un autre auditeur aussi parle de la responsabilité du gouvernement éventuel, Clive Walker, qui dit « Pour éviter ce type d'acte, il faut que la société fasse de la sensibilisation morale en poussant les gens à prendre conscience de leur acte. » Alors, nous avons un auditeur qui souhaite également intervenir. Il est en Côte d'Ivoire. Il s'agit de Youssouf Ouedraogo. Bonsoir.
Oui, bonsoir à toute l'équipe de VOA Afrique, aux auditeurs et auditrices.
Alors vous, quelle opinion portez-vous sur le sujet du jour?
Alors moi, je pense que à la lecture de ce qui se passe malheureusement dans ce pays, je pense que c'est aussi et malheureusement le fruit de l'instabilité politique de l'Afrique du Sud qui peut expliquer, n'est-ce pas, ce manque d'action de l'autorité publique à lutter efficacement sur la base de la loi, n'est-ce pas, contre le phénomène de la xénophobie qui fait et refait surface en Afrique du Sud. Alors, les violences à caractère xénophobe ou raciste, à l'instar de ce qui se passe donc en République sud-africaine et qui remet en cause l'intégration africaine, c'est pour moi tout simplement inacceptable. Parce que c'est une terrible honte pour ce pays qui doit, n'est-ce pas, sa stabilité et sa démocratie au grand Nelson Mandela, lui qui a sacrifié l'essentiel de sa vie pour enterrer l'apartheid et la ségrégation raciale pour que règne justement l'unité dans une Afrique prônant l'intégration, cette intégration de plus en plus mise à mal à travers justement ce genre de violence. Alors, cette violence est dans un contexte envoûté de protectionnisme recherché aura pour seul mérite de creuser encore plus dans les sentiments dormants de rejet et de haine profond dans le pays. Et c'est pourquoi moi je pense que on peut oser espérer que les autorités mettent tout en œuvre pour éviter au pays, n'est-ce pas, la reproduction de la pire honte que ce cas nous a fait vivre l'hypocrisie de l'apartheid dépassée.
Merci beaucoup Youssouf Ouadraogo d'avoir partagé avec nous votre point de vue. Nous avons un auditeur qui habite en Afrique du Sud. Il s'agit d'Armand Bokoko. Bonsoir.
Bonsoir Mary.
On a eu plusieurs auditeurs qui sont vraiment scandalisés par ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud. Ils ont donc ce sentiment de haine dans le pays, dans la nation arc-en-ciel. Vous qui vivez en Afrique du Sud, non loin de Johannesburg, dans une résidence vraiment, on peut dire safe, hein, vraiment sans souci. Quel regard portez-vous sur cette nouvelle vague de violence?
Ok, le regard que je porte sur cette nouvelle vague de violence, il faudrait bien entendu considérer le fait qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est, si on arrive à voir que l'on parle de xénophobie, en réalité ce n'est pas la xénophobie, c'est l'afrophobie.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que les Africains qui sont en dehors de l'Afrique du Sud, lorsqu'ils immigrent, tenant compte du fait qu'il y a la crise un peu partout en Afrique, je dis que non, je pense que nous pensons que nous pouvons avoir une opportunité de voir que non, il y a la démocratie qui est respectée en Afrique du Sud, les lois sont respectées, pourquoi pas venir et créer des entreprises, pourquoi pas venir et apporter un peu la main d'œuvre qualifiée.
Parce qu'il y a des personnes qui viennent et qui font fortune en Afrique du Sud et d'autres sont accusées par des Sud-Africains de voler leur travail et vivent certaines fois des violences. Donc comment expliquer cette disparité entre ceux qui s'en sortent bien et ceux qui ont des difficultés?
Bon, comment expliquer cette disparité? Bon, d'abord, lorsque l'apartheid a pris fin en 1994, il se fait qu'il fallait pouvoir avoir l'expertise de la main extérieure, la main d'œuvre extérieure, que ce soit dans le domaine électronique, médical ou technique en général. Et il y a eu la ruée de plusieurs techniciens, médecins de partout en Afrique qui sont venus, comme à la ruée vers l'or, trouver des possibilités pour travailler. Bon, en travaillant, ils ont pu aimer de la nation et vivre. Bon, de l'autre côté, qu'en est-il des autochtones qui n'ont pas d'expertise, qui n'ont pas d'expérience? Le gouvernement sud-africain devait faire en sorte qu'on puisse aider ceux qui sont désœuvrés à se qualifier, à se transformer pour de nouveaux emplois. Mais malheureusement, tenant compte que la majorité est noire, cette politique n'a pas permis à tout le monde de pouvoir excéder.
Alors,
il y a aussi l'autre.
Oui, dites-nous.
Il y a aussi l'autre aspect à considérer.
Oui.
C'est que ceux qui ont la main-d'œuvre, les autochtones, bon, parmi eux, il y a certains qui se sont dit c'est notre pays, bon, que je travaille, que je ne travaille pas, on va me payer. Bon, imaginez-vous un investisseur étranger qui arrive en Afrique du Sud, il vient, il investit et il se rend compte que les affaires ne marchent pas parce que les gens ne veulent pas travailler.
Ah, oui.
Qu'est-ce qu'il va faire? Il va recourir à la main-d'œuvre extérieure qui est qualifiée et payer ces gens-là à un salaire qui n'est pas consistant.
Alors, on va continuer de poursuivre cette...
Autochtones, c'est un peu la colère. Je dis, mais comment se fait-il que vous venez travailler ici avec un salaire, pour certains, qui n'est pas consistant, vous prenez le travail, et nous, nous restons à la maison, et on n'a rien.
Alors, on va poursuivre ces explications. Armand, il y a une auditrice qui souhaite également apporter sa contribution. Il s'agit de Mariam Koulibaly à Bamako. Bonsoir.
Oui, bonsoir Kia, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors cette peur de se faire piquer son travail par l'étranger arrive, en tout cas existe également en Afrique du Sud comme dans d'autres pays à travers le monde. Qu'est-ce que vous pensez de cela?
Kia, moi je pense que c'est une peur naturelle et c'est une peur qui est dans tous les pays, mais bon, que les Sud-Africains et puis quand on fait son boulot bien, on ne peut pas se faire piquer.
Alors si cette peur est naturelle, néanmoins on assiste à des violences très 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 horribles. Des personnes se font brûler, des tas d'autres personnes ont leur commerce complètement saccagé. Comment faire selon vous pour éviter cela?
En tout cas, il faut que le gouvernement se lève et qu'il fasse ce qu'il doit faire. Parce que c'est pas normal que les gens s'entraînent à des gens qui n'ont rien fait, seulement que de quitter leur pays pour venir chercher un avenir meilleur. Et aussi, ils sont sud-africains. Ils ont leurs amis, leurs parents, leurs frères, leurs sœurs qui quittent la République sud-africaine pour aller dans d'autres pays, pour aller chercher une vie meilleure. Il faut pas qu'ils s'entraînent aux gens. C'est pas normal.
Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que ça ne peut pas être normal du tout. Merci beaucoup, Mariam, d'avoir apporté votre point de vue. Ibrahima Doumbia, bonsoir.
Bonsoir à tous, bonsoir à tous les de la ville.
Et vous, qu'en pensez-vous?
Je pense qu'il y a de nombreux Sud-Africains qui travaillent en dehors de ce pays, et qui sont au Mali, qui sont partout, je dirais, en Afrique, même en Europe, et qui investissent tout ça. De l'or et du diamant et autres. Je pense que ce sont les gens qui font des fortunes, qui des Zimbabwéens, des Maliens ou des Sénégalais qui rentrent dans leur pays pour faire du commerce ou travailler. Je pense que cela, quand même, devrait les motiver, les encourager. Ils devraient savoir que l'Union africaine, quand on parle d'Union africaine, c'est un ensemble. Ce n'est pas seulement ce petit environnement de Malawi ou l'Afrique du Sud, non. C'est tous ces pays-là, tous ces gens-là qui s'y mettent. Et qui ne pas travailler dans tous les pays où il y a une liberté. Et c'est Malien, c'est Zimbabwe, qui sont maghrébins, qui sont dans leur commerce saccagé. Je pense que le gouvernement sud-africain doit prendre des mesures. Pourquoi pas? Et montrer ces images-là à tous les publics pour que la nation entière puisse prendre conscience sur vraiment ces besoins. Comme on sait très bien que l'Afrique du Sud est un pays qui a traversé une période très difficile à travers la partie. Et que Nelson Mandela, à travers ses actions, on a su que l'Afrique du Sud pouvait remonter et mettre les choses en arrière. Mais si, après des années, on constate qu'il y a un marche arrière, il y a un retour en arrière qui est là, je pense que cela n'est pas une très bonne chose. Et à travers vous aussi, les médias, je pense que nous avons cette image aujourd'hui de l'Afrique du Sud, mais je pense que les politiciens, que ce soit l'ANC ou d'autres partis politiques, peuvent s'associer et s'unir contre ces actes-là qui, quand même, permettent un peu l'image de ce pays qui, selon mon point de vue, devait quand même être la fierté du continent africain, puisque c'est un pays qui a traversé la situation d'une période difficile et qui a remonté et qui ne devrait pas quand même s'enliser dans ce genre de situation.
Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre avis, Ibrahima Doumbia. Énormément de commentaires de colère, c'est le cas de Francis Bibelive, qui est en République démocratique du Congo. Je me demande des fois si en Afrique, les personnes ont les mêmes chromosomes avec les autres peaux. Il y a beaucoup de blancs en Afrique du Sud, mais jamais ils n'ont tabassé les noirs africains qui venaient travailler ou les brûler vifs. Cela doit cesser. Qu'en pense notre prochain auditeur? Il s'agit de Bakary Keïta. Bonsoir.
Tiens, bonsoir.
Comment allez-vous?
Je me porte très bien.
Alors, vous vous portez sans doute mieux que des personnes ayant eu des violences xénophobes en Afrique du Sud. Quel regard portez-vous sur cette actualité?
Bon, c'est vraiment un regard triste. Hein. C'est un crime vraiment ignoble, à mon avis. On n'est plus quand même dans l'état de nature. Moi, je crois que la loi de la jungle doit être purement quand même punie par... Avec la dernière rigueur par l'État. Je crois que l'État doit prendre des mesures draconiennes pour que plus jamais un tel acte quand même ne se reproduise plus. Ça, ce qui se passe en Afrique du Sud, vraiment, ça touche tout le monde parce que ça ne rime pas avec l'image que Madiba a donnée vraiment à ce pays de l'arc-en-ciel. Et on n'est pas d'accord. Moi, je crois que nous devons voir tout juste, on ne doit pas voir un Malien, un Sud-Africain, un Ivoirien, mais on doit voir tout juste l'Africain. C'est à travers cela que l'Afrique pourra se développer et on doit mettre de côté vraiment la haine, la xénophobie pour se donner la main, pour bâtir vraiment une Afrique nouvelle. Et surtout, à l'ère où je vous parle, à la une, c'est l'Union monétaire africaine qui est à la une. Donc avec ça, là, est-ce qu'on pourra aller de l'avant?
Très bonne question. Merci beaucoup, Bakary Keïta. Nous avons toujours en ligne notre invité, Armand Bokoko, qui vit donc à peu près à une cinquantaine, 60 kilomètres de Johannesburg. Alors, vous avez pu entendre différents témoignages. Beaucoup parlent de la responsabilité de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez?
Donc, entre autres, l'État a quand même une responsabilité, dans le sens que il faudrait en principe mettre en place des structures, des mesures, après avoir écouté les interlocuteurs qui ont donné leur point de vue, c'est que quand vous regardez dans l'ensemble de la nation, c'est vrai que l'État doit prendre des mesures draconiennes. C'est-à-dire que juste pour dire que si vous faites un pillage systématique ou vous détruisez les biens de n'importe qui, on vous arrête et vous allez en prison et vous ne sortez pas.
Oui, ça c'est une mesure. Oui.
Ceux qui agissent dans le mal, bon, parmi eux, ils sont couverts. Ils sont couverts.
De quelle manière?
Le mal est reconnu comme le bien et le bien est reconnu comme le mal. C'est comme un renversement d'antivaleur.
De quelle manière ils sont couverts?
Oui, je prends un exemple. Quelqu'un qui va aller voler dans un shop qui appartient, dans un magasin qui appartient à un étranger,
oui,
africain, qui est un entrepreneur, et il vole, et on l'arrête, et quelques mois plus tard, on le voit sur la route.
Ah, ça, c'est des sanctions sans véritable sanction. Un auditeur souhaite également donner sa contribution, Armand. Il s'agit de Steve Boko, qui est en Côte d'Ivoire. Bonsoir.
Oui, bonsoir, madame la journaliste.
Oui, vous avez pu entendre le témoignage d'Armand Bokoko, qui vit en Afrique du Sud. Donc, d'un côté, on souhaite qu'il y ait des vraies réprimandes et des vraies sanctions. De l'autre, il arrive que des voleurs puissent être mis en prison et puissent être revus quelques temps après. Vous, quel est votre sentiment par rapport à la situation en Afrique du Sud?
Bon, d'abord, moi, je vois que ça, c'est un comportement cannibaliste. En fait, son propre frère. Vous voyez, donc pour moi, je pense encore une fois que nous, Africains, nous devions nous aimer avant que les Européens vont nous aimer. Vous voyez, si on voit le cas de l'Amérique, on se dit que le dirigeant américain n'aime plus ses vœux contre nous, Africains. Pourtant, nous-mêmes, nous ne nous aimons pas. Vous voyez que c'est un peu arbitrable.
Et en Côte d'Ivoire aussi, il y a eu beaucoup de communautés de différents pays africains qui sont venus s'installer.
Ici en Côte d'Ivoire, souvent, nous sommes. Juste après la guerre, il y a eu quelques discordes entre les nordistes et les sudistes. Vous voyez, mais avec le temps, avec la CDVR dont le chef d'État a instauré en temps, a pu consolider, même si cela n'est pas à 100% pour le moment, je pense qu'il y a une cohabitation entre ces deux ethnies. Mais une autre ethnie, encore une fois, nous regorgeons 26% d'étrangers, mais il n'y en a même pas de ces soubresauts, il y a même ces imbroglions au sein du pays. Donc je pense que c'est nous, Africains, qui devons nous aimer que de pouvoir nous céder ou de pouvoir critiquer les autres États. Sinon que vraiment, ça avilit le nom de nos continents. Surtout à l'Afrique du Sud, ce n'est la première fois que nous attendons ça. Ça fait plusieurs fois, et c'est pas bon. Il doit falloir que nous devions nous aimer. Sinon, c'est pas bon pour le continent.
Alors, essayer de s'aimer, essayer d'avoir aussi des mesures du gouvernement, c'est un peu les différents témoignages que nous avons eus. Oui, je vous laisse donner votre dernier mot. Ah, nous vous avons perdu. En tout cas, merci beaucoup à Steve Boko, merci beaucoup à Armand Bokoko et à toutes les personnes qui ont contribué à cette émission aujourd'hui. Sans oublier, bien sûr, l'équipe technique composée aujourd'hui de Firmin Max Koyaweda, Sims Lumami et Nashwan Kali. C'était Ekia Badou et vous pouvez retrouver toutes les émissions sur notre site www.voafrique. Dans quelques instants, une nouvelle édition, Le Monde aujourd'hui, présentée par Abdourahmane Dia.